On va partager quelques versets dans la parole de Dieu ensemble et on va revenir sur un thème qui me semble forcément important parce qu'on est certainement tous concernés par cela. Donc dans le deuxième livre de Samuel, on va faire quelques lectures. Deuxième livre de Samuel, nous lirons au chapitre 3, un premier passage au verset 39. On va faire quatre lectures dans le livre de Samuel, ça concerne les mêmes personnes. Ça concernera toujours Joab, mais on va les lire d'une manière non pas suivie, c'est-à-dire qu'on va d'abord lire au début, on va aller plus loin, on va revenir, mais c'est parce que ces événements, je veux les lire dans cet ordre-là précisément. Donc, 2 Samuel chapitre 3, verset 39, c'est une remarque de David qui dit ceci: « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Amen. » Tseruja, c'est une sœur de David. Et cette sœur de David a eu trois enfants, Joab, Abishaï, Azaël. Et ces trois enfants sont donc, vous l'avez compris, les neveux de David. Et ils vont entrer, notamment les trois, mais notamment Joab, dans l'armée, dans le cercle restreint, et il deviendra général de l'armée de David. Mais regardez ce que dit David les concernant, « Ils sont trop puissants pour moi. » Chapitre 19, verset 6. Joab s'adresse à David. Suite à la mort d'Absalom, ils vont avoir une franche discussion. Et voilà ce que Joab lui dit. « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, ce serait agréable à tes yeux. » C'est dur à entendre, hein ? On revient au chapitre 3. Et au verset 27, voilà pourquoi David dira que les fils de Tseruja étaient trop puissants pour lui et qu'il fallait rendre le mal à celui qui faisait le mal. Chapitre 3, verset 27, « Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. » Et un dernier texte au chapitre 20 et au verset 27. Chapitre 20, verset 27. Il n'y a pas de verset 27. Ah, hein. Alors, faut que je vous le retrouve. Chapitre 17. Non, c'est pas. Non, excusez-moi, on reste dans le chapitre 20. Bon, je vous le retrouverai tout à l'heure. Je lis le verset 8. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est Gabaon, Amasa arriva devant eux. Voilà. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Amen. Il n'y a que moi qui dis Amen. Hein? Ouais, parce que c'est triste. Hein? Mais c'est biblique, alors il faut bien dire Amen, parce que c'est écrit comme ça. Ce qui m'intéressait, c'est cette vision du chrétien charnel, Soit il est spirituel, soit il est charnel. En fait, il est les deux. Il devrait être que spirituel, mais malheureusement, ça semble bien compliqué. Et bien souvent, il y a une part de charnel malgré tout. Et c'est les textes que nous avons partagés. On se rend compte que dans l'attitude de Joab, il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise. C'est un homme qui va avoir beaucoup d'aura. Il va réussir à faire beaucoup de choses. Et puis, on le retrouve criminel. On le retrouve vengeur. On le retrouve... Ça, c'est le troisième texte que l'on a partagé. Et puis, finalement, ce dernier. On le retrouve avec de la haine dans son cœur. Très surprenant, d'ailleurs. On a du mal à imaginer comment il en est arrivé là. Mais ça s'explique. Ça s'explique par des comportements. Et ces comportements sont résumés dans ces textes que l'on trouve, deux d'entre eux, dans la lettre aux Romains. Je vais vous les citer. Et ça va être autour de ces textes que l'on va méditer ce matin. Écoutez donc. « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. » Les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ça paraît formidable. Pourtant, il est dit un peu plus loin au chapitre 13 et au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et puis je mets en parallèle, puisque vous avez la référence, le texte des Galates, au chapitre 5 et au verset 19. « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. » Vous comprenez que toutes ces dérives, finalement, elles sont le fruit du cœur. Ça démarre dans le cœur, forcément, toutes ces choses-là. Et puis dans un cœur qui n'a pas été régénéré. Regardez-moi, vous verrez le texte après, regardez-moi. Dans un cœur qui n'a pas été régénéré, forcément. Ça sous-entend que l'état normal du genre humain, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Tous les êtres humains sur la Terre vivent de cette manière-là, avec plus ou moins de retenue, mais c'est en eux, c'est le péché, hein. C'est juste la nature humaine qui est faite comme ça. C'est quand même terrible, et c'est dramatique, c'est drôlement inquiétant quand même, mais le problème, c'est que c'est viscéral. Quoi que vous fassiez, c'est attaché à vous, c'est rivé à votre cœur, à votre conscience. On a du mal à se défaire de ça, à moins que notre cœur soit régénéré, à moins que notre vie soit transformée, à moins que nous naissions de nouveau. Parce que là, la nouvelle nature est spirituelle. La première était charnelle, la deuxième devrait être, et en tout état de cause, spirituelle. Je crois qu'on ne résiste pas toujours victorieusement dans nos luttes et nos combats. C'est une lutte de tous les instants. C'est plus exigeant qu'il n'y paraît d'ailleurs, parce que ce qui me perturbe, choque, si vous voulez, c'est que tout ce que je viens de vous lire, c'est pas adressé aux païens. malheureusement. C'est adressé aux chrétiens. Ben oui, c'est ça le problème. Si c'était adressé aux païens, on se mettrait dans une case intouchable, tout va bien pour nous, et puis regarder le monde comme il est sale et mauvais. Sauf que ce n'est pas ça. La vérité, c'est que malheureusement, le monde est en souffrance, mais retrouver de telles actions, de tels actes dans le cœur d'un chrétien, ça paraît inconcevable. S'il est né de nouveau, ça ne paraît pas logique. J'ai trouvé ce que nous avons lu dans l'Épître aux Romains, où il est parlé des excès de l'impudicité. J'ai trouvé une autre traduction, au chapitre, donc Romains 13, verset 14, et on comprend mieux ce qu'il est dit. « Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. » Vous risquez d'en réveiller les passions. « À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. » Ça signifie que le croyant reste un pécheur avec ses caractéristiques. Mais béni soit Dieu, nous avons été pardonnés, nous avons été rachetés, nous avons été justifiés, nous avons été affranchis. Et tout ça devrait nous permettre, évidemment, de ne pas tomber dans des écarts, dans des écueils, comme c'est montré à l'écran. D'ailleurs, il me semble, comme c'était dit sur la diapo d'avant, que le plus important, c'est de garder son cœur, Proverbe chapitre 4. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, l'action de péché, ça commence toujours par le cœur, bien évidemment. On comprend peut-être mieux la portée des paroles de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Que dit l'apôtre Paul? Il arrive à la fin de sa vie. Il sent que dans quelque temps, il va mourir. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Vous ne pensez pas qu'il a frôlé les frontières de tout ça? Ou vous croyez qu'il était sur une autre planète? Non, il était là. Hein? Combien de fois il aurait pu se mettre en colère? Combien de fois il aurait pu céder à des excès totalement immoraux? Combien d'ailleurs ont perdu la foi pour ça? Combien ont perdu finalement leur espérance à cause de ça? Ils ont été rattrapés, c'est une expression qu'on utilise, rattrapés par le péché. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été rattrapés, je pense qu'ils ont mis le frein à main et ils se sont laissés prendre volontairement. Ou c'est peut-être même eux qui ont franchi la porte finalement qui les a conduits vers tous les écarts et tous les égarements. Alors, il y a trois groupes de déviances bien distinctes et ça a été signifié dans les différents textes que l'on a lus. Alors, je les ai notés comme cela. Certains textes bibliques, certaines traductions, ce n'est pas moi qui l'invente, parlent littéralement d'orgie. Hein. Orgie. On parle d'ivrognerie, on parle de beuverie, on parle de ses excès. On s'adresse à des chrétiens, frères et sœurs, à des chrétiens. On parle d'expériences sexuelles, échangisme, etc. On parle d'aventure. Ce n'est qu'une aventure. Ouais. On brise des familles, on brise des foyers, on brise des couples, on détruit tout. Et on se dit, mais c'est pas grave, c'est juste une aventure. C'était juste comme ça, juste un week-end. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelque temps un reportage à la télévision où quelqu'un parlait d'un nouveau système. Vous savez qu'aujourd'hui, avec nos smartphones, on a toutes sortes d'applications. Et l'une de ces applications donc, permettait de faire des réservations sans qu'il ne reste aucune trace, réservation avec carte bleue, hein, sans qu'il ne reste aucune trace informatique dans le nuage informatique, dans le cloud, tout disparaît, c'est un nettoyeur en fait, et si vous passez par ce service, c'est garanti. Alors le journaliste interrogé, titillé un petit peu, et comme seul exemple, cet homme a dit, ben, imaginez que vous partiez en week-end avec votre maîtresse, c'est ce qu'il a dit, hein, avec votre maîtresse ou avec votre amant, vous pouvez faire tous les achats, etc., aucun risque que ça arrive sur votre compte bancaire, ça n'apparaîtra jamais. Vous vous rendez compte quand même? Mais il y a de quoi hurler quand on entend ça quand même. Il y a de quoi hurler. Et ça passe. Ça passe. Et ça passera de plus en plus, certainement. Ça gêne de moins en moins de monde. Alors que le monde ne soit pas gêné par cela, on ne peut rien y faire. Mais que les chrétiens soient moins gênés et de moins en moins gêné par ça, ça me gêne quand même. Ça me gêne. L'apôtre Paul s'adresse aux croyants. Il ne s'adresse pas au monde entier, mais par contre, le monde entier vient frapper à la porte des croyants. Ça, c'est une vérité. Le monde entier frappe à la porte des chrétiens. Et nous devons faire attention. Nous devons être vigilants, nous devons prendre garde. Et c'est ce que, finalement, l'Écriture nous montre. J'avais trouvé un petit dessin, je ne l'ai pas reproduit, malheureusement. C'est un graphique. Imaginez trois graphiques superposés. Le premier, c'est fait à peu près ça. Voilà. Le deuxième aussi, il est plus haut, et le troisième aussi. Le premier, tout en bas, c'est la vie de quelqu'un qui vit sans Dieu, donc il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Sauf qu'il est totalement en dehors du plan de Dieu. Il est en dehors. Et puis quand quelqu'un devient chrétien, il monte à l'étage au-dessus, donc en dessous, c'est l'être humain qui n'a pas été régénéré. Au milieu, vous avez des courbes aussi chez le chrétien. Ça monte et ça descend. Il y a des moments où c'est mieux, il y a des moments où c'est moins bien. Il y a des moments où c'est très bien, et il y a des moments où c'est franchement pas bien. Et puis, vous avez une autre courbe au-dessus qui signale à peu près les mêmes écarts. La différence, c'est que celle du milieu, on appellera ça le chrétien charnel, et celle du dessus, le chrétien spirituel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les sommets de la courbe du milieu du chrétien charnel vont certainement croiser les bas du chrétien spirituel. Et c'est ça qui trompe. C'est que quelquefois, chez quelqu'un qui est très spirituel, il fait des choses incroyables, on se dit « mais c'est pas possible, pas lui, il n'a pas pu faire ça ». Il est descendu très bas, la lutte de tous les instants, la lutte de tous les jours, et il s'est fait avoir. Par contre, ce qui est plus terrible, c'est que le chrétien du milieu, c'est-à-dire celui qui est juste en dessous, qui est très attaché aux choses de la terre, il aime la convoitise, il reste attaché à toutes ces choses-là, donc lui, il a des hauts et des bas. Et quand il est en super forme, on croit qu'il est spirituel, parce qu'il atteint cette phase où il est dans la colonne de ceux qui sont vraiment spirituels. Sauf que c'est juste un pic, parce que la réalité, elle est beaucoup plus basse. Ça descend, sa ligne de vie, elle est bien en dessous. Tout ça pour vous dire, et dommage que je n'ai pas pu installer le graphique, tout ça pour vous dire que on peut peut-être s'abuser soi-même. On pourrait s'abuser soi-même en passant par une bonne période et en se disant, je sens que je vais bien, tout va bien, je n'ai plus rien à craindre. La Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde. Ça ne veut pas dire qu'on est un petit peu névrosé et qu'on a toujours peur. Hein? Non, non. Ça signifie justement et simplement qu'on doit être un chrétien et un chrétien devrait être spirituel et plus charnel. On devrait se détacher de cette nature qui nous tire vers le bas sans cesse. Je vous relis ce qu'il était dit dans cette traduction de Romains. « Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. » Vous risquez d'en réveiller les passions. Et à force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. J'ai choisi des exemples. Ce sera plus simple et on avancera mieux avec ça. J'ai choisi des exemples. Il y a l'exemple de Dieu. Judas l'Iscariote. Jésus a prié toute une nuit, et quand il s'est, quand le jour s'est levé, il en a choisi 12. Le texte nous dit pour les avoir, il les a établis, et il les a choisis pour les avoir avec lui. Pendant 3 ans, il les aura avec lui. Parmi les 12, il y a Judas. Les 4 évangiles, vous savez que les évangiles ont été écrits après l'événement. Hein? Les 4, vous prenez Marc, vous prenez Matthieu, vous prenez Luc, vous prenez Jean. Les 4, au moment où il retrace cet événement, ce texte-là, quand Jésus, de bon matin, en a choisi 12 pour les avoir avec lui, et on va nommer Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, on va tous les nommer. Et les 4 évangiles signalent, et Judas qui devint traître, et Judas qui le livra, et Judas qui le trahit. Les 4 évangiles mettent cette mention. Il y a quelque chose qui est resté, alors que sur les autres, on ne dit pas. Pierre, parce que ça a été écrit après, hein, Pierre qui a renié le Seigneur, c'est dit nulle part. Dans ces quatre textes, c'est pas dit. Par contre, Judas, c'est à chaque fois repris. Le cas de Judas nous interpelle tout de même parce qu'il est assez curieux, parce que c'est Jésus qui l'a choisi. Les textes nous rappellent ce qu'était la vie de Judas. Et on sait très bien que Judas a mal vécu. C'était quelqu'un qui aimait l'argent. C'était quelqu'un qui tenait d'ailleurs les comptes, tenait les comptes de la troupe quand elle se déplaçait, etc. Donc c'est lui qui s'occupait de tout cela. Et on comprend que l'amour de l'argent, ça crée la cupidité. La cupidité va engendrer l'avarice. Et après cela, on finit voleur. C'est toujours comme ça, hein? Toujours comme ça. On est dans une de ces trois catégories qu'on voyait avant. Hein? Et évidemment, à un moment donné, la cupidité, c'est naturel, c'est humain, mais ça peut nous mener très loin. D'ailleurs, ça s'est mal terminé pour Judas. Vous savez qu'il a été trouvé les sacrificateurs. Matthieu, chapitre 26. Il leur a dit « Combien me donnez-vous pour vous le livrer ?» Toujours cet appât de l'argent. Il va négocier 30 pièces d'argent. Il récupère l'argent. Une fois qu'il livre Jésus et qu'il réalise ce qui se passe, il est repris dans sa conscience. Alors il retourne en direction du temple et il veut rendre l'argent en disant « J'ai livré le sang innocent, je vous rends l'argent. » Et eux vont dire « Ça te regarde, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. » En fait, ils avaient besoin de lui, mais jamais ils ont voulu l'aider. Jamais ils se sont servis de lui. Vous croyez que toutes nos compromissions avec les choses de la terre, quelles qu'elles soient, vous pensez qu'elles sont profitables? Parce qu'on vous a dit, ne t'inquiète pas, un jour je te renverrai l'ascenseur. Il ne reviendra jamais l'ascenseur. On vous laissera tomber dans le vide, certainement. Pauvre Judas, il a jeté les pièces, il est parti, et comme dernier recours, il s'est suicidé. C'est terrible, hein, il s'est pendu. C'est un cas extrême, hein, c'est un cas difficile à comprendre. Après, il y a toujours le choix des hommes, et je me suis davantage arrêté évidemment au choix des hommes, parce qu'il me semble que nous avons tous la liberté de faire ce que l'on veut. Liberté d'action, le choix des hommes, et là j'ai pris plusieurs exemples. Judas, donc cupide et voleur, c'est ce qu'on a vu. Démas, avez-vous déjà entendu parler de Démas? On va le lire ensemble. Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4, verset 14. Colossiens, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 14. Comprenez bien que tous ceux qui ont dit oui au salut ont profité de la vraie liberté. La vraie liberté, c'est le choix. C'est de pouvoir décider ce que l'on veut faire. Soit ils entrent dans le plan, entre guillemets, du sauvetage du monde, soit ils se serviront de cette opportunité pour encore chercher leurs propres intérêts. Et on en a connu comme ça. Ils sont devenus chrétiens juste par intérêt. Parce qu'ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés. Priez pour moi, que je sorte de prison, que j'aille mieux, etc. etc. Et quand ils ont été mieux, ils ont fait pique-pendre. Parce qu'ils allaient mieux. Donc ils se sont servis de Dieu, se sont servis du message pour repartir à fond dans ce qu'était leur vie d'avant. Et ça leur a rarement profité d'ailleurs. Donc soit ils se servent de cette opportunité et ils serviront leurs propres intérêts, mais alors là la chute, elle n'est certainement pas préméditée, elle n'est pas forcément inéluctable, mais en tous les cas il y aura chute. C'est-à-dire que le chrétien spirituel deviendra charnel. Et à cause de ça, il rendra un mauvais témoignage. On s'aperçoit souvent que nos chutes, elles interviennent dans un moment de faiblesse. C'est quand on ne va pas bien. Et pourquoi? Tout simplement parce que le diable connaît nos points faibles. Et il attend le bon moment pour nous faire un croche-patte. Si on est en pleine forme, il ne peut pas faire grand-chose. Mais il attend la fragilité, le moment de mou, le moment de faiblesse. Et là, s'il peut nous mettre à terre, il nous mettra à terre. Il y a toujours des signaux d'alerte avant la chute. Quelquefois, quand quelqu'un s'est fait une entorse, qu'il a soignée, au bout de quelque temps, il va sentir à un moment donné, s'il marche longtemps, que la cheville devient fragile, elle aura tendance à partir, il devra arrêter. Parce que s'il continue, elle va vraiment se tordre. Il y a des signaux d'alerte, quelquefois, où on sent que si on continue dans cette voie-là, on va chuter. Si on continue à penser comme ça, on va certainement tomber bien bas. Si on continue à flirter avec ce qui n'est pas très sain, S-A-I-N ou S-A-I-N-T, comme vous voulez, on frise le danger, le réel danger. Il y a des signaux d'alerte comme ça. Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, certainement. C'est la grâce de Dieu. Sauf que la pression, puisqu'elle est mise sur les points faibles, on pourrait tomber. L'Épître aux Galates dit que nous avons été libérés. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Alors j'en viens à Démas. Démas, c'était un gars super. C'était un gars qui était vraiment bien, un bon chrétien, bien engagé dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Colossiens chapitre 4, verset 14, il faisait partie des compagnons de travail de l'apôtre Paul. Dans les salutations de Paul à cette église, il précise « Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas ». On le retrouve dans l'épître à Philémon, je vous le cite. Il est dit ceci. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Démas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un collaborateur, c'est un homme impliqué, c'est un homme investi, c'est un chrétien spirituel. On imagine qu'il est fiable, évidemment. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? 2 Timothée, chapitre 4, et verset 9. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas ne l'a pas abandonné en disant « Paul, t'as sale caractère, j'en peux plus de toi, je m'en vais. Et je vais travailler avec d'autres. » Non. L'explication, c'est qu'il a été attiré. Comment, on ne sait pas, mais il a été à nouveau aspiré par le monde. Et le pauvre, il a été avalé par les plaisirs de la terre et il a tout perdu. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. On ne sait pas quelle a été la fin de la vie de Démas. On ne va pas, pauvre, le tuer deux fois. Peut-être qu'il s'est ressaisi, peut-être qu'il est revenu à Dieu. Souhaitons-le, souhaitons-le. Toujours est-il qu'il a perdu du temps. À un moment donné, il y a eu un blanc, il y a eu un trou, et c'est franchement bien dommage. Et là, je me suis posé la question, parce que quelle tristesse pour Paul. Beaucoup d'incompréhension quand quelqu'un arrête la course, ça nous laisse un peu pantois. On se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait ? C'est terrible d'en arriver là. On peut parler de mensonges, on peut parler de séduction, on peut parler d'erreurs. Il s'est fait piéger, des masses, certainement, il s'est fait piéger. Et là, je me suis dit, il y a deux possibilités, deux questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'était trop dur d'être chrétien ou est-ce que c'était trop dur de ne plus être païen ? Saisissez la nuance ? Est-ce que c'est trop dur d'être chrétien ? C'est trop dur, j'ai trop de combats, j'ai trop de conflits, j'arrive plus. Ou est-ce que c'était trop dur de ne plus pouvoir faire la bringue, s'amuser, s'éclater, être un bon païen. C'était quoi qui était plus dur pour Démas ? Je ne sais pas. Mais soit c'est dans une direction, soit c'est dans l'autre, soit c'est un peu les deux. De toute façon, si on ne supporte plus notre vie chrétienne et qu'on regrette notre vie d'avant, aïe, 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 il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Et le risque, c'est qu'on peut abandonner et ce serait terrible. Je suis persuadé que vous n'avez quasiment jamais entendu parler de Figel et Hermogène. Non ? Figel et Hermogène. On ne dit pas grand-chose d'eux. On dit juste, dans 2 Timothée, c'est l'épître des naufrages de Timothée. Donc il y en a quelques-uns. 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Figel et Hermogène. » Entre autres, Figel et Hermogène. On ne sait rien d'autre de ces gens-là. Mais je me dis, il y en a tellement de chrétiens à cette époque-là, que si on a retenu leur nom, c'est qu'ils devaient bien faire quelque chose de particulier. Pourquoi on parlerait d'eux et pas des autres? À moins que ce soit les deux seuls qui aient abandonné, tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis pour eux, mais tant mieux s'il n'y en a eu que deux. Mais j'ai du mal à croire qu'il n'y en a eu que deux, il y a peut-être eu en avoir d'autres. Sauf qu'eux, on a retenu leur nom. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient comme ça, montés en flèche? C'était des gens qu'on connaissait, des gens qu'on appréciait, des gens qu'on aimait. Quelquefois, on a appris qu'un tel a perdu la foi. C'est tellement énorme que ça va vite faire le buzz, ça va vite se savoir. Il y a quelques années de cela, j'ai appris qu'un artiste chrétien, et on chante ces cantiques, qu'un artiste chrétien avait fait son coming out. Vous savez ce que ça veut dire? Il a dit qu'il était homosexuel. Homosexuel. Et que Dieu l'acceptait comme ça, et qu'il continuerait à chanter la gloire de Dieu en étant homosexuel, et en vivant maritalement avec quelqu'un. C'est terrible. Quand vous entendez un truc comme ça, c'est une flèche dans le cœur. Hein. Si c'était quelqu'un qui n'était pas artiste, totalement méconnu, bon, ben, à part sa famille et les alentours et l'église du coin, personne ne saurait. Hein. Figel et Hermogène, qui étaient donc ces gens-là pour qu'on en parle à ce point-là? Le fait est qu'on en a parlé. Le fait de les nommer, ça les a placés dans la lumière. Hein. Malheureusement, que Dieu nous garde d'être une occasion de chute pour quiconque. Que Dieu nous garde d'être une occasion de chute. C'est un drame humain, c'est un drame spirituel. Imaginez, vous êtes chrétien, vous dérapez, mais le vrai dérapage. Imaginez vos voisins. Imaginez les collègues de travail à qui vous avez rendu témoignage. Imaginez des gens que vous avez côtoyés, que vous avez aidés, à qui vous avez parlé de l'Évangile. Vous allez avoir du mal à les regarder dans les yeux, hein, forcément. Le chrétien charnel perd tout. Il perd la grâce du témoignage qui repose sur lui. Il y a Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre, je les ai séparés parce que la phrase était trop longue. On peut les mettre, évidemment, ensemble, puisqu'ils sont nommés ensemble. Hyménée et Alexandre. On lit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 14. « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Il n'a pas voulu devenir un chrétien charnel, Paul, et il n'a pas voulu se venger. Mais dans la première épître au chapitre 1er, on a une précision, et il est dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience. Quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Là, c'est quand même dur, hein? C'est costaud. Hein? Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je veux mettre en parallèle, ils ont fait naufrage, ils n'ont plus de conscience. Je mets en parallèle, ils ne sont pas directement liés, mais je mets en parallèle parce que l'expression est redite par Paul dans un autre passage. Un texte qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. L'apôtre Paul met en avant l'état moral pitoyable de l'église de Corinthe. Et il en parle avec effroi. Hein, et il dit ceci, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, c'est de l'immoralité, hein, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. » Imaginez. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Ça veut dire, alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce passage, mais c'est comme si Paul disait, avant qu'il ne perde tout, s'il a déraillé, il vaudrait mieux qu'il meure, que ça s'arrête là, et qu'au moins, il ne perde pas son salut. Au moins ça. Parce que s'il continue comme ça, il va finir par tout perdre pour de bon. Je l'ai livré à Satan afin qu'il meure, que la chair, qu'il soit livré à la mort et qu'on sauve ce qui est sauvable. Maintenant, j'en reste sur l'idée de la bonne conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à la bonne conscience. Quand on parle, comme c'était dit tout à l'heure, de discorde, de jalousie, de rivalité, de querelle, de sensualité, d'immoralité, d'aventure, expérience sexuelle, d'ivrognerie, de beuverie, d'excès, d'orgie, c'est les termes bibliques. Est-ce qu'à un moment donné, on ne perd pas la conscience si on traîne là-dedans? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas étouffé notre conscience? C'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, bien-aimés, parce qu'ils sont tombés dedans. Et quand on devient, quand on perd la conscience, hein, on devient méchant. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. De quelle manière? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est opposé à lui? Est-ce qu'il l'a calomnié? Est-ce que physiquement, il a voulu lui casser la figure? Il y a des années de cela, je discutais avec un frère, un collègue pasteur, qui est parti auprès du Seigneur maintenant. Et cet homme me disait que dans l'Église, il y avait des frictions et qu'un jour, il s'était tellement opposé à quelqu'un que le quelqu'un l'attendait à la sortie de l'Église pour lui casser la figure. Ne riez pas, hein, c'est dramatique. Il voulait lui casser la tête. Et il était plutôt costaud. Hein. Et puis, au moment où il a attendu 1h30 dehors que le temps du culte se fasse. Et au moment où ça a été la fin, il ne sait pas pourquoi, mais il est parti. Et quelque temps après, il est revenu à l'église repentant et il a marché avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Je pense qu'il était à la limite d'aller trop loin. Alexandre a été trop loin. Alexandre n'a pas veillé. Alexandre, quelquefois, quand on est repris, quand on est secoué, ça nous fait tellement de mal, ça nous dérange tellement qu'on pourrait être violent, hein, avec les mots, hein, et renvoyer les autres en disant « t'as rien à me dire, je fais ce que je veux », etc. De là à devenir méchant, gardons-nous de perdre conscience. Et je termine avec Diotrephe pour cette liste-là. Diotrephe, c'est un orgueilleux. Il n'y a pas grand-chose sur lui. Hein. C'est l'apôtre Paul qui en parle, l'apôtre Jean. Dans la troisième épître de Jean, il dit ceci. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, c'est un chrétien, hein, c'est un chrétien. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et il les chasse de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'Église, lui? Pourtant, il est toujours vivant, ça veut dire que Dieu n'en a pas fini avec lui. Sinon, il aurait repris. Hein. Ça veut dire que Dieu l'aime. Ça veut dire que le choix de Dieu, ça a été jusqu'à Judas. Ça veut dire que le choix de Dieu, ça a été jusqu'à nous. Il nous a arrachés à notre misère. Il nous a arrachés à nos fragilités, à nos faiblesses. Mais par contre, la liberté, c'est de résister et de mener les bons combats. Hein. Parce qu'on est tantôt chrétien spirituel et tantôt le charnel n'est pas loin. Et on pourrait glisser, on pourrait déraper. Je conclue avec Joab. Je vous l'ai mis en haut. Jaloux, rempli de violence et de vengeance. Ce serait trop long de s'étaler sur toute la vie de Joab, mais c'est quand même incroyable. Tout le monde connaît Samson, et il est cité entre 30 et 40 fois dans la Bible. Beaucoup moins de personnes connaissent Joab, et il est cité plus de 150 fois. Ça paraît incroyable. Hein. Joab, c'est quelqu'un qui était extraordinaire. C'est quelqu'un qui était bien. C'est quelqu'un qui avait de la valeur. C'est quelqu'un qui était pétri de qualité. C'est quelqu'un qui était intègre, qui était droit. Mais il était charnel. Il était charnel. Et quand dans une bataille, un certain Abner a été obligé de tuer son jeune frère, Azaël, Alors que dans la bataille, vous pourrez le lire dans le deuxième livre de Samuel, alors que dans la bataille, Abner a dit à Hazaël, « Retire-toi, ne reste pas là, je ne veux pas te tuer. » Et l'autre insistant, un coup d'épée en arrière, un coup de lance en arrière, et ce pauvre jeune garçon est décédé. Ça a mis un coup à Joab. Et Joab l'a jamais pardonné. Et quelque temps plus tard, il va trahir. Quand Abner va revenir vers David pour trouver un terrain d'entente, il s'en va en paix. David le renvoie en paix, c'est un homme sage. Et Joab, fou de colère, le fait revenir en lui disant « Dis-moi, j'ai quelque chose à te dire en secret. » Et là, il le tue pour venger son frère. Jalousie. À d'autres moments, l'Écriture nous montre qu'il va en vouloir à Amasa. Cet homme avait pris autorité sur les armées de David après lui. Parce qu'après ce que Joab avait fait en tuant Abner, David l'a mis de côté. Et l'autre, il a rongé son frein. Il bouillait intérieurement en disant « c'est ma place, c'est pas la sienne, c'est moi le chef, c'est moi le général, etc. » Et il a joué d'une ruse, vous avez vu. « Ah, mon frère, comment vas-tu ? » Il l'approche comme ça et il le tue. C'est violent quand même, hein. C'est violent. Sa fin sera triste parce que au moment où David devra confier les rênes à son fils Salomon, il lui dira « Souviens-toi de ce que Joab m'a fait. » Et il ne peut pas s'en aller comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et Joab ne voudra pas. Joab s'enfermera dans le temple, il s'accrochera aux cornes de l'autel et un messager ira le tuer parce qu'il a choisi de mourir par les armes. C'est terrible, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a mal fini. Il s'est trompé de combat. Il aurait dû être tiré vers le haut et rester spirituel. Mais il a été tiré vers le bas. Il est devenu totalement charnel. C'est une lutte chez nous. Souvenez-vous de ces deux graphiques. Même si vous avez atteint des sommets, regardez si vous êtes en haut ou si vous êtes en bas. Regardez si vous êtes dans la bonne case, croyance spirituelle. Maintenant, on n'est pas prétentieux, hein, bien évidemment. Mais on se souviendra du conseil de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchons selon l'esprit et nous serons vainqueurs sur toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. On se lève ensemble. Seigneur, à toi la gloire et la grâce, à toi la louange et l'honneur, parce que tu en es digne. Nous voulons nous humilier devant toi et te demander pardon pour toutes nos erreurs, toutes les fois où nous avons mal dit, mal fait, où nous nous sommes mal comportés, pensant que personne n'entendait, ne voyait, mais toi tu sais, tu vois tout. Nous ne voudrions jamais perdre la bonne conscience. Jamais nous n'avons imaginé que la chute nous atteindrait, elle n'est pas inéluctable, elle n'est pas imparable. Tu nous donnes les moyens de parer à toutes ces difficultés et nous te remercions pour cela. Merci de nous avoir régénérés, merci d'avoir fait de nous des êtres nouveaux, des nouvelles créatures. Je prie que tu nous accompagnes encore et que tu nous donnes de connaître des victoires. Je ne veux pas que reste dans un coin de nos cœurs une fragilité quelconque, que ce soit la colère, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'immoralité, que ce soit des excès quelconques, ça pourrait être le jeu, ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être tellement de choses. Mais je voudrais que tu débarrasses mon frère, ma sœur, de tout lien, de tout ce qui l'entrave et que tu lui donnes véritablement d'apprécier ce qu'est la liberté totale. Que ton nom soit béni pour ta grâce. Nous voulons te faire confiance, te rester attaché. Et s'il demeure quelques luttes et combats, nous voulons relever le défi et compter sur ta grâce et sur ta grâce seule. Garde-nous et raccompagne-nous dans ta paix. Glorifie ton nom encore pour tout ce qui sera dit et fait. Amen.